Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec.
Bienvenue dans cette deuxième saison des balados juridiques. Je m'appelle Vanessa Destiné et je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous partagent avec beaucoup de générosité leur histoire et leur cheminement après leur divorce et leur séparation. D'entrée de jeu, ce qui m'a fascinée, c'est que tous ont dit qu'il y a une vie après une telle épreuve et qu'elle est belle. Notre but avec ce balado, c'est de vous partager leur histoire, vous inspirer et vous aider sans lunettes roses. Aujourd'hui, on s'intéresse à la séparation ou au divorce dans un contexte d'immigration. L'immigration, c'est très souvent la promesse d'un avenir meilleur. Se divorcer ou se séparer, c'est un bouleversement pour n'importe qui. Mais le faire quand on est immigrant comporte son lot de défis supplémentaires. Jessica et Florent en savent quelque chose. Ils nous en parlent en première partie de cet épisode. Dans la deuxième partie, je m'entretiendrai avec Mme Rachida Azdouz, qui est psychologue. On parlera des principaux enjeux que rencontrent les personnes issues de l'immigration lorsqu'elles divorcent ou se séparent. Et avec Maître Marie-Pierre Marquis, avocate, on verra quelles sont les solutions pour trouver de l'aide afin de réussir à traverser cette épreuve. Mais d'abord, revenons à l'histoire de Jessica. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Jessica, une femme rayonnante originaire du Venezuela. Bonjour Jessica!
Bonjour!
Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. La situation politique difficile t'a poussée à fuir ton pays pour offrir une vie meilleure à tes enfants. C'est donc avec ton mari et tes enfants, qui à l'époque avaient 4 et 9 ans, que t'es arrivée au Québec en mars 2006. En plein hiver québécois, donc c'est quand même quelque chose. Parle-moi un peu justement de ce parcours-là.
On était venus ensemble avec tout l'espoir de rester ensemble. Je pense qu'on était convaincus de que c'était un projet de vie.
Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble?
15 ans. Donc, et dans notre culture, c'est quelque chose d'important de rester marié toute la vie. Là. Donc, pour nous, il n'avait pas question de se séparer. Je pense qu'on était les deux convaincus à ça. Et c'était très, très douloureux, dans mon cas, de me séparer de mes parents, mon frère et de ma soeur. Et je pense que pour tous les immigrants, déraciner nos enfants aussi, c'est quelque chose de difficile. Et que tu arrives et que tu ne parles pas la langue, que tu n'as pas les moyens financiers pour donner moins le même niveau de vie. On n'avait pas les moyens d'acheter des meubles. Les enfants sont couchés pendant moins un mois dans ces sacs de couchage. On va partager la même salle de bain. Ça semble banal, mais c'est beaucoup de changements. Chacun, là-bas, il avait sa chambre, mais ici, il restait les deux enfants dans la même chambre. Mm-hmm. Donc, on n'avait pas de télévision, on n'avait rien du tout. Et mon rôle à moi, c'est de faire semblant. À un moment donné, je jouais dans les fils de La vie est belle.
La vita è bella?
Oui, c'est ça.
Tu sentais comme le papa dans le film?
Oui, oui, oui. Okay. Je faisais ça, c'était mon rôle. J'essayais vraiment
d'insuffler de la magie pour
exactement.
Faire semblant que tout allait bien dans le meilleur des mondes, alors que votre monde est en train de s'écrouler un peu. Et ça devient lourd à porter également pour le couple. Comment on gère ça en couple?
Lui était vraiment inquiet pour la situation financière de la famille. C'était très lourd en tant que papa.
Il y avait un rôle d'homme pourvoyeur, en fait.
Oui. Et dans mon cas, c'est de faire semblant que tout va bien aller, mais qu'à l'intérieur, j'avais autant de peur, autant de crainte que je ne pouvais pas exprimer avec des gens. Je n'avais pas non plus les liens directs avec ma famille. Les appels téléphoniques coûtaient très cher aussi. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai commencé à m'isoler. Et en plus, c'est que j'ai perdu mon père. On est arrivé en mars et papa est mort en septembre. Je ne pouvais pas vivre mon deuil. Mm. Donc, il y avait une priorité,
que
c'est de
survivre.
Oublie ça, je ne pouvais même pas pleurer à cause de qu'on avait vraiment des problèmes plus graves que ça. Mm.
Est-ce que tu arrives quand même à te faire des amis, à parler de ta situation pour sortir de ton isolement?
J'ai commencé à faire des amis tranquillement dans la communauté vénézuélienne, mais j'étais gênée aussi de dire qu'est-ce que je vivais en tant que couple.
Puis à partir de combien de temps après votre arrivée, tu as vraiment senti que là, ton couple était en train de s'effriter?
L'année d'après, là, donc 2006-2007, on a déménagé. On ne se parlait pas trop. On a commencé à faire comme une espèce de thérapie des couples, mais ça n'a pas fonctionné.
Pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu penses?
Parce que personnellement, je pense que lui, il n'était pas intéressé à parler avec quelqu'un d'autre de nos problèmes. Il n'était pas prêt pour faire ça. Pour lui, tout est correct. Mm-hmm. Et moi, dans mon cas, culturellement aussi, on a la tendance à dire, ben, je fais ça pour mes enfants. Et dans ma famille, il n'y avait aucune fille divorcée. Là. Mm-hmm. Jusqu'à date, personne dans ma famille était divorcée.
Donc, tu n'avais pas de modèle?
Non, non. Dans ma famille, s'il y avait des problèmes, je ne le savais pas. Maman, dans sa culture à elle, quelqu'un divorcé, et c'est un péché. Mm. J'étais la première divorcée de toute la famille.
Parle-moi de la rupture. T'sais, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de mettre un terme à la relation?
À un moment donné, il ne trouvait pas cohérent que je faisais des études à temps plein. J'ai un diplôme en ressources humaines. J'exerçais des postes aussi des cadres chez nous au Venezuela. Mais pour lui, c'est une perte de temps. Je ne pense pas que c'est mal intentionné. C'est plutôt qu'il ne croyait vraiment pas à ça. Mais je dis, je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui ne croit pas à moi, qui ne m'accompagne pas à mes projets. Sauf qu'il y avait un poids, vraiment, pour ces décisions-là. Si, ensemble, notre revenu était vraiment très beau, imagine-toi séparer. Retourner aux études avec une autre langue. Et c'est un défi vraiment majeur. Donc, on avait convenu de rester ensemble jusqu'à la fin de mes études. À cette période-là, on ne savait pas toute la démarche légale. Mm-hmm. J'avais une amie vénézuélienne qui m'avait dit que ça existe, l'aide juridique, les bureaux de justice de proximité. Donc, c'est là que je suis allée voir qu'est-ce que je pouvais faire. Ils m'ont donné toute l'information pour aller voir l'aide juridique. Mm-hmm. Donc, ils m'ont trouvé un avocat. Mon niveau de français n'était pas assez bon pour bien comprendre tous les systèmes et tout ça. Mm-hmm. C'est sûr que ma première référence, c'était vraiment l'aide juridique et les bureaux des
centres de justice de proximité.
Que vraiment une chance, moi, qu'il était là. Vraiment, ils m'ont guidée à faire toutes les démarches nécessaires pour réussir à avoir mon divorce. Mm-hmm. Quand j'allais voir l'avocat, que l'avocat m'avait dit, « Madame, vous n'avez pas les moyens pour avoir la garde totale de vos enfants. Mm-hmm. » Je dis, « OK, qu'est-ce que je dois faire? » Ben, la unique chose à faire, c'est demander une pension à votre mari pour vous et pour vos enfants.
Aïe, aïe, aïe. Sachant que lui-même est dans une situation précaire.
Oui. Ça, c'est mon orgueil qui est embarqué là-dedans. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin d'une pension de lui, là. Non, 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 non. Mais je n'avais pas le choix.
Dans les faits,
parce
oui.
Parce que, oui, c'était quelque chose aussi qui affectait la relation. Quand maman était là, j'avais l'appui de maman. Soulagement de partager ma situation avec quelqu'un de proche.
Enfin.
Mais quand maman est partie, là, c'était dur, vraiment. Me trouver mère monoparentale, toute seule. Toute seule, c'est une façon de dire, parce que lui était là en tant que papa, mais la responsabilité d'avoir la garde totale de les enfants, les activités scolaires, les fins de semaine en travaillant, c'était des fois lourd à porter. Et oui, c'était vraiment un très bon défi. Mm-hmm. Même aussi mes amis. Parce que quand on décide de partir de ton pays, ta nouvelle famille, ce sont tes amis. J'ai des sœurs, j'ai des frères, j'ai des mamans québécoises, j'ai eu toutes des familles installées ici qui m'ont aidé à passer à travers de toutes ces épreuves-là.
Revenons à cet accompagnement dont tu parles, qui a été très bon pour toi, cette relation-là avec l'avocat. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était comment cette expérience-là? Parce que pour bien des gens, un avocat, ça peut être très intimidant, c'est tout le processus de l'aide juridique. Toi, comment tu as vécu ça?
Oui, je ne peux pas nier que c'était intimidant. C'est gênant pour moi aussi, expliquer ta vie personnelle à quelqu'un ou les raisons pour lesquelles tu te sépares de quelqu'un. Mais j'ai trouvé que cet avocat-là était vraiment à l'auteur de sa tâche. Là. Donc, il avait une empathie envers moi. Il a pris le temps d'expliquer. Il a pris le temps de m'assurer de ma décision ou des choses que je n'étais pas certaine. Oui, je peux dire que j'étais vraiment bien encadrée dans cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise?
Oui, ça. Juste là. Savoir que j'avais l'accès à l'aide juridique, que j'étais admise.
Le couple, c'est pas la fin non plus de la vie amoureuse. Ça peut reprendre tout ça. Oui. Éventuellement, c'est possible de rencontrer l'amour à nouveau.
Ah, que oui. C'est rencontré il y a 6 ans. Je pense que ça valait la peine.
Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui?
Hey, totalement content.
Une fois qu'on est capable d'aller chercher cette aide-là, comme toi t'as fait, Yessica, clairement, ça peut juste aller mieux. On l'entend dans ta voix. Donc, vraiment, félicitations à toi. Puis, je suis contente de voir que la vita est bella, finalement.
Ah, que oui.
Merci infiniment pour ta générosité.
Merci à vous.
Quelle entrevue touchante avec Yessica. Sa résilience et son parcours inspirant nous rappellent l'importance de l'entraide et du soutien. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir partagé ce moment. On connaît l'adage qui dit « qui prend mari, prend pays ». Dans le cas de Florence, c'est l'inverse. D'origine française, il est venu s'installer au Québec en 1999 pour l'amour d'une femme qu'il avait rencontrée 2 ans plus tôt au cours d'un voyage. 18 ans et 3 enfants plus tard, Florent divorce. La routine s'est installée, le couple s'était éloigné et d'amoureux, ils étaient devenus de simples colocataires. C'est un parcours assez commun, vous me direz. C'est vrai que c'est jamais facile, mais comment le vit-on lorsque nos racines sont à des milliers de kilomètres? Merci Florent d'avoir accepté de te joindre à nous puis de nous raconter ton histoire. C'est vraiment, vraiment apprécié. T'es arrivée ici avec un bon réseau de soutien, c'est-à-dire la famille de ta conjointe et cette dernière, mais reste que t'avais pas un très grand réseau.
Non.
Donc, t'as laissé tout le monde derrière en France et c'est là, en fait, qu'on devient un peu dépendant de cet unique réseau qu'on connaît.
Exact.
Et ça, ça peut être un problème éventuellement.
C'est une très bonne question parce que quand on est jeune puis qu'on immigre, c'est pas des considérations qu'on fait nécessairement attention. L'éloignement avec la famille, sur le moment, on est tellement dans l'euphorie de pouvoir justement vivre sa vie avec sa conjointe que ça devient un peu secondaire. On se dit, bah, c'est facile, la France, c'est pas si loin, on peut facilement voyager d'un pays à l'autre. Mais après, avec le fil du temps, on l'a vu, il y a eu, avec la pandémie, on se sent loin quand on peut pas voyager, voir sa famille comme on le faisait peut-être avant. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que, justement, dans une situation, comme on le mentionne, de séparation, on peut se retrouver rapidement tout seul. Notre famille n'est pas là pour nous aider physiquement. Elle n'est pas forcément là non plus matériellement pour nous aider puisque les conseils qui peuvent s'appliquer à la France sont peut-être différents ici parce que les processus sont différents. Dans mon cas, c'est des choses que je n'avais pas forcément pensé au départ, au moment d'immigrer, mais qui m'ont rattrapé à un moment donné dans ma vie.
Mais je suis curieuse de savoir si ce processus-là d'immigration, est-ce que ça a eu un impact sur le couple? Parce que le mal du pays, c'est associé à ça quand même aussi.
Je dirais que dans mon cas, ça n'a pas été un élément qui est venu jouer au niveau de la séparation, mais ça pouvait devenir des sources de conflits.
À partir de quel moment dans ta tête tu te dis... là, je pense qu'il va falloir qu'on ait une conversation.
Ça prend du temps, honnêtement. Puis plus, je dirais que plus la relation est longue, plus on a tendance à être dans le déni.
Est-ce que le fait d'avoir des enfants aussi, ça a comme un peu mis un frein sur ton désir d'avoir cette conversation-là? Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la peur de se retrouver seule, étant donné que tu n'avais pas vraiment de réseau avec toi, le fait que tout ton réseau, c'était majoritairement la famille de ta conjointe?
Exact. C'est un très bon point, parce qu'effectivement, d'ailleurs, l'initiative de la séparation, c'est ma conjointe qui l'a eue. Elle perdait moins que moi. Son cheminement, je l'avais eu aussi dans ma tête, mais j'avais beaucoup plus de peur par rapport à l'inconnu dans lequel j'allais me retrouver. Donc, inconsciemment, on se dit à ce moment-là, est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une situation pire que ce que je le suis aujourd'hui? Puis avec le recul, honnêtement, c'est une erreur de penser ça. Parce qu'on se fait du mal inutilement, parce que il y a une vie après la séparation.
Absolument, il y a une vie après la séparation. Ben oui, j'aime ça parce que c'est exactement ce qu'on essaie de montrer avec notre balado. Parle-moi en fait de cette séparation-là. Est-ce que toi, tu connaissais la marche à suivre pour te séparer ici au Québec?
Pas du tout.
Ah non.
Vraiment pas du tout. Puis c'est pas. Puis je pense pas que c'est lié au fait d'être au Québec ou pas. Je pense que même pour ma conjointe, elle savait pas non plus. Donc là, il a fallu qu'on s'informe. On a eu évidemment des conseils de la part de sa famille.
Est-ce que tu penses que c'est plus complexe pour une personne issue de l'immigration de traverser une séparation?
Oui, on se retrouve dans un rapport de force inégal, quoi qu'il arrive. Même si tout le monde est de bonnes intentions,
de bonne foi. Ben oui.
On est forcément dans un rapport déséquilibré. En fait, avec le médiateur, c'était le moment où je sentais que le rapport de force était le moins grand, parce que lui était, il prenait parti pour aucun des deux. Pour la séparation des biens matériels, le père de ma conjointe nous avait donné un coup de main pour rédiger le document. Puis moi, je l'avais vu, puis j'avais pris connaissance, puis j'étais d'accord avec ce qui était dedans. On l'avait bâti ensemble. Mais le médiateur a attiré notre attention là-dessus. Il a dit, oui, mais même s'il est de bonne foi, attention, et dit, votre père, volontairement ou involontairement, il va toujours essayer de vous favoriser. Ou sans vouloir vous favoriser, il va s'assurer que, au moins toi, tu ne perds rien. Oui. Il va essayer de protéger, autrement dit, ta situation. Là, je pense qu'elle avait compris aussi que c'était important de laisser rentrer, en fait, des regards extérieurs, pas juste de son côté.
Est-ce que le fait d'être seul au Québec, ça t'a, d'une quelconque manière, poussé à prendre des décisions ou à renoncer à prendre certaines décisions?
C'est une bonne question. Puis je pense que c'est dans mon cas, ça, j'aurais tendance à dire que ça a plutôt poussé à renoncer à prendre des décisions. J'ai déjà eu à regretter à certains moments des aspects, par exemple par rapport au choix de garde des enfants. Nous, dans notre cas, on a choisi de pas avoir une garde à 50% à cause de la nature de mon travail. À un moment donné, je l'ai regretté justement parce que je trouvais que je perdais un peu une partie de la relation de mes enfants.
Comment tu vis ça? D'un point de vue personnel, tu es tout seul au Québec. Oui. Comment tu vis tes années post-séparation?
Oui. C'est important de le souligner, surtout pour les personnes qui viennent de l'extérieur comme moi, qui n'ont pas forcément de contact sur place. Parfois, on se sent vraiment seul. On se sent presque dans l'obligation de faire confiance à l'autre. Parce que en fait, finalement, l'ex-conjoint devient notre seul contact. Donc,
toi, t'es devenu du jour au lendemain un parent solo après la séparation.
Oui.
Quel réseau t'avais pour te soutenir?
J'avais quelques amis. Je joue beaucoup au tennis, puis j'avais des partenaires qui sont devenus des amis. Avec qui j'ai pu me confier. Puis, pour moi, c'était bien de pouvoir parler à ces personnes-là qui pouvaient me donner leur avis extérieur, mais sans avoir la prise de parti pour l'un ou pour l'autre.
Puis dis-moi, comment t'as géré aussi comme l'après? Parce que tu sais, toi, t'as des dépenses supplémentaires. T'as le mal du pays un peu depuis quelques années. Tu veux amener les enfants, voir la famille. Tu sais, ça, c'est des coûts supplémentaires, tu sais. Comment t'as géré ça?
Les voyages, évidemment, on veut amener les enfants aussi voir la famille. Donc là, on se retrouve tout seul à assumer ces charges-là. Donc, je pourrais donner plein d'exemples de coûts supplémentaires ou de coûts qui étaient là, mais qui se retrouvent absorbés par une seule personne. C'est une des choses aussi que le médiateur il dit clairement aux deux parties, c'est qu'une séparation, quoi qu'il arrive, ça conduit à un appauvrissement des deux parties.
OK. C'est bien dit, c'est réaliste.
Avec le recul, c'est tout à fait vrai. En tout cas, pour moi, ça l'est.
Est-ce que tu as des choses que tu aurais faites différemment?
J'essaierais de consulter davantage. Peut-être de demander au médiateur de me donner des ressources au niveau financier, au niveau droit familial.
Faire davantage de recherches, mettons?
Faire davantage de recherches, même au niveau de mon employeur. Puis je ne l'ai pas utilisé, mais souvent dans les employeurs offrent des services aux employés.
Puis, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont peut-être dans la même situation que toi, tu as connu, Florent? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir, tu penses?
Savoir déjà que ça va être difficile. Donc, se préparer déjà à passer un peu par toutes les gammes des émotions. Mais par contre, être capable de les reconnaître. Donc, savoir quand est-ce qu'on est triste, quand est-ce qu'on est en colère.
Savoir qu'elles sont légitimes aussi, hein,
oui,
ces émotions.
Oui, qu'elles sont légitimes, oui. Que ne pas avoir peur aussi même de consulter des professionnels de la santé. C'est pas une honte si on se sent dépassé, si on se sent surmené par rapport à ça. On a le droit de l'être. Moi, personnellement, je le redis, je n'ai pas assez utilisé. Ma ressource principale a été le médiateur. Même si ça allait bien, je pense que ça aurait été bien que je m'informe, que je me tienne informé beaucoup plus.
Et en terminant, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui, Florent?
Ça va très bien.
Ça va bien, on a refait sa vie,
on a reconstruit
notre vie.
Effectivement. J'ai rencontré une autre personne extraordinaire. Puis là, ça va bien, donc... Et me voilà.
Merci beaucoup, Florent, pour vrai, de t'être livré au cours de cet épisode. On sent surtout aussi qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'amertume, que c'est un processus.
Oui.
C'est une étape de vie comme une autre, mm-hmm. Tu sais, puis c'est possible de traverser cette étape-là de manière sereine. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer là, avec cette balado. Donc, je te remercie pour ton temps, pour ta générosité également.
Ça me fait plaisir. C'était avec grand plaisir que j'ai pu partager cette expérience-là avec vous.
On l'a vu avec Florent et Jessica, l'immigration, c'est déjà tout un parcours. Leurs témoignages nous ont permis de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les personnes immigrantes lors d'une séparation, notamment en ce qui concerne leur réseau de soutien et leur connaissance du système juridique québécois. Si vous voulez plus de conseils pour vous adapter à la séparation ou juste pour trouver de l'aide par rapport à votre situation, je vous donne rendez-vous au juridique.gouv.qc.ca. Je suis Vanessa Destiné et je vous dis à la prochaine.
Ce balado vous a été offert par le gouvernement du Québec.